la parabole des talents est profondément choquante pour nos contemporains, pour nous peut-être. Elle fait pour moi partie de ces paraboles impossibles de l'Évangile. Elle donne à Dieu un visage tellement dur, effrayant même. Et pour celui qui aime, dont je suis sûrement, dimanche après dimanche, annoncer un évangile théologiquement correct, où dégouline l'amour et la grâce, la tentation d'enjamber ce genre de parabole est forte. Elle s'achève en pleurs et en grincement de dents. Alors comment comprendre ce maître qui sanctionne durement un pauvre serviteur timoré, nous dit la Tobe, craintif, pour la seule raison qu'il n'a pas su entrer dans la logique de rentabilité des deux autres. On peut poser la question quand même, est-ce que cette parabole accréditerait-elle la logique libérale, la loi du marché, qui fabrique aujourd'hui d'ailleurs à peu près toutes les grandes décisions économiques et politiques sur la planète? À savoir, je le formule à ma manière, je ne suis pas économiste, mais seuls s'en sortiront les créatifs, les innovants, les winners, ceux qui sauront tirer profit du système capitaliste. Vous percevez nettement dans ma question un effet rhétorique et vous entendez aussi la réponse. Non, Dieu ne veut pas que ça marche comme ça. Alors, si c'est non, si cette parabole est tout autant l'évangile que Jean 3,16, alors le plus dur reste à faire maintenant. Expliquer de quoi elle nous parle. Et c'est quoi cette histoire d'investisseur, de DRH, de dividendes, de rétribution? On est quand même dans l'évangile. Il y aurait aussi une possibilité, c'est de revenir à la tradition, et à l'interprétation habituelle, un peu moralisante, qui dit que, eh bien, ce qui est dit est simple. Seul le travailleur méritant aura une place. Voilà. Seul le vrai croyant, on peut le traduire comme ça, le serviteur efficace sera digne du salut. Il me semble que cette parabole ouvre une troisième voie de compréhension. Et je vous invite maintenant à l'explorer avec moi. On y va. D'abord, comme souvent dans les paraboles, les premiers mots sont essentiels. Un peu comme dans l'autre parabole, là, un semeur sorti pour semer. Après, il y a beaucoup de développement, mais presque tout est dit avec cette première phrase. Et ici, c'est un homme parti en voyage. Il appela ses serviteurs et il leur remit ses biens. La traduction œcuménique que j'ai proposé là, et la Nouvelle Bible Second aussi, font à mon sens un mauvais choix de traduction en utilisant le verbe « confier ». Il leur confia ses biens. Confier, parce que confier, ça induit quand même l'idée de prêt, de gérance. Je m'absente, je te confie les clés de ma maison. Ça ne veut pas dire que la maison elle est à toi. C'est juste pour surveiller si tout se passe bien. Or, le verbe employé ici, c'est celui du don. Et d'ailleurs, les anciennes traductions françaises de la Bible, par exemple Darby et Louis II, la première, avaient bien lu, et elles utilisent le verbe remettre. Il leur remit. C'est bien. L'homme qui part en voyage ne prête ni ne confie, il donne. Sans aucune idée, a priori, de reprise du don à un moment ou à un autre. Première observation. La seconde information est elle aussi, à mon sens, capitale pour notre compréhension du message de la parabole. L'homme qui part en voyage ne donne pas à chacun la même chose. Il donne à chacun, c'est comme ça que c'est dit, selon ses capacités, il faudrait traduire littéralement selon ses forces. Il connaît bien ces hommes. La justice n'est pas égalitariste. C'est une supercherie, ça. Elle est juste, la justice. C'est-à-dire qu'elle s'approche au plus près de la condition humaine et lui donne ce dont elle a besoin. Il y a certains cadeaux qui peuvent faire peur, hein, qui peuvent écraser, mettre la pression. Non, ici, l'important n'est pas premièrement la quantité de ce qu'on va recevoir. L'important, la seule chose importante, c'est le fait de recevoir. Et ce n'est pas pareil. Ce qui est donné est à toi, totalement. Va et vis de cela. Bon, on peut noter aussi au passage que les sommes qui sont distribuées sont littéralement astronomiques. Un talent, vous savez ce que c'est ? C'est 20 années de salaire d'un ouvrier. Alors, 5 ou 2, c'est... hein, vous faites les calculs. Mais celui qui reçoit moins reçoit en réalité énormément. C'est ce qui est dit ici. Le départ de ce riche donateur est l'occasion d'une distribution qui est littéralement surabondante. Une troisième observation, le maître s'en va et il s'en va pour de bon. Il ne fait pas semblant de partir, il n'est pas du genre à faire mine de s'éloigner pour espionner à la jumelle sur la colline d'en face ses serviteurs pour voir comment ça se passe. Il s'en va. Il ne fait aucune promesse de retour. C'est un peu plus loin qu'on va apprendre qu'il revient. Après un long temps. Ce qui veut dire qu'il a dû un peu se faire oublier, vous voyez, par les serviteurs. C'est aussi une confirmation que les talents distribués ne sont pas un investissement sur l'avenir et que l'arrivée du maître n'est pas un retour, justement, un retour sur investissement. Et d'ailleurs, le texte grec est très intéressant, très clair. Il s'agit d'une venue et non pas d'un retour, comme le traduisent fort justement, à tort, pardon, la seconde ou la Bible en français courant. Elle parle du retour alors qu'il n'est question que de la venue. Ce départ et cette venue du maître, bien évidemment, parle de notre relation avec Dieu. Cette parabole nous apprend à penser et à vivre notre relation à Dieu et notre vie de croyant dans ce monde. Dans la vraie vie, que ce soit pour l'éducation de nos enfants, que ce soit dans l'amitié, dans la vie professionnelle, si on veut donner à l'autre la possibilité d'exister librement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut accepter de s'éloigner. Il faut mourir à la place que l'on occupait et en découvrir une autre. Moi, quand j'étais petit, je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais petit, je réussissais bien quand personne ne me regardait. Ou n'attendait que je réussisse en sa présence, mon devoir d'école, par exemple. C'est seulement dans cet éloignement, dans cette distance, dans l'établissement d'un silence, que l'on offrira à un proche la possibilité de devenir lui-même et de mener son existence, et non celle que nous aimerions qu'il mène. Le message aux parents, là, il est fort, hein, vous entendez ? Il n'y a pas de vie possible pour celui qui reste lié, enchaîner à l'autre dans une relation de dépendance immobile, écrite une fois pour toutes pour la vie. Non. Il n'y a pas de vie possible sans détachement, sans deuil. Tant que papa et maman tiennent la main de l'enfant, l'enfant reste un enfant. Quelquefois, ils ont 40 ou 50 ans, les enfants. Hein. Cette parole entre donc en résonance avec d'autres paroles du Christ qui annoncent son départ, sa mort. Oui. C'est dans cette traversée de la vallée de l'ombre de la mort, c'est dans l'expérience de la séparation que sera rendue possible la vie de chacun. Cette mort, ce départ, nous projette dans une existence réellement libérée, entreprenante, missionnaire, pleine d'espérance. Jésus meurt pour que nous vivions enfin, libérés de toute nécessité, de toute peur. Je l'ai dit, la venue du Maître n'a pas pour intention le règlement des comptes. Hein. C'est important. Littéralement, au verset 19, nous trouvons l'expression « le Maître vint » et non pas « revint », « le Maître vint » pour prendre parole avec eux. Presque partout, c'est traduit pour demander des comptes. Il ne vient pas reprendre ce qu'il a donné, mais pour ouvrir un dialogue. Alors, les deux premiers serviteurs ne rendront d'ailleurs ni le capital ni les intérêts, vous avez vu, hein. Au contraire, on leur parle encore de faire plus. Le maître ne leur demande aucun pourcentage de leur réussite. Il parle avec eux, il parle avec eux, il les encourage. Il salue leur engagement. Il ouvre avec eux, pour eux, des nouvelles perspectives. La relation avec Dieu peut se développer ainsi sur ces bases-là, de confiance, de dialogue et de joyeux projets. Viens te réjouir avec ton maître. La joie est très forte ici. Et nous comprenons ce que c'est que la véritable richesse. Celle dont nous parle Jésus ici, c'est la richesse de la vocation personnelle. Nous recevons tous un appel de Dieu, un talent. Quand n'avons-nous fait ? Qu'en faisons-nous ? Maintenant, nous sommes riches d'un appel à vivre cette vie sous le signe de la surabondance et non pas de la frustration, de la joie et du libre engagement. Ne nous contentons pas de ce que nous avons reçu, de l'appel que nous avons reçu. Ce qui est donné est appelé à être dépassé, amplifié par notre réponse à l'appel. Même si un talent, cela peut paraître énorme, le maître dit que 1, 2, 5, c'est peu de choses en comparaison de ce qui vient. Et ce qui vient, c'est la réponse à l'appel de Dieu, d'abord. Bon, voilà, ceci étant dit, je sais que vous m'attendez au tournant sur le troisième serviteur. Ça fait un moment que vous regardez votre montre. J'y viens. Alors, c'est quoi son problème à ce troisième serviteur ? Alors, le problème du troisième serviteur, c'est de ne pas avoir cru que ce qu'il avait reçu lui était vraiment donné, était à lui. D'ailleurs, il dit « ce que tu m'as donné, ce qui est à toi, pardon, c'est ce qu'il dit, ce qui est à toi ». Alors que c'était vraiment donné, que c'était gratuit, que c'était pour lui. Et pire même, il pense que ce talent qu'il a reçu, donc, ne lui appartient pas, mais qu'il faudra le rendre un jour. Le troisième serviteur est dans le déni de la grâce. Il enterre ce lingot comme il pourrait enterrer sa propre vie. Ce rapport imaginaire et injuste au maître le remplit de peur, le terrifie et le tétanise aussi. Il est comme le paresseux du livre des Proverbes qui crie « Il y a un lion dehors !» C'est bien pour dire que la paresse n'est pas un vice, comme on l'a souvent qualifié. C'est une trouille bleue, la paresse. Un refus de vivre et de mettre sa vie, de mettre en vie ce que l'on a reçu et d'en prendre le risque. La dure parole du maître ne fait finalement qu'entériner le choix de non-vie que le troisième serviteur a fait. Il est en quelque sorte mesuré avec la mesure qu'il a lui-même choisie, pour lui et pour son maître. Pire même, si son maître était ce patron dur, sans affect, qu'il s'était imaginé, alors il aurait dû agir autrement. Lui, il aurait dû placer son argent chez le banquier. Un petit taux, vous voyez, quelque chose qui rapporte un peu quand même. Un livret A, un truc comme ça. Il enterre ce lingot. Et là, finalement, je pense à ça, la peur du gendarme, elle a aussi ses avantages. Hein, elle rend possible la vie sociale. On peut prendre sa voiture et aller au travail grâce à ça, grâce à la peur du gendarme. C'est un début de quelque chose. C'est pas forcément extraordinaire, mais le serviteur aurait dû, à minima, placer l'argent à la banque. Il sera donc repris à ce serviteur ce qu'il n'a jamais accepté, ce qu'il a refusé d'avoir. Ce talent qu'il n'a jamais possédé et jamais mis en œuvre. Et la question est celle-là, est-ce qu'il y a un risque que je sois ce troisième type de serviteur? Bien évidemment. Suis-je prisonnier des représentations de Dieu dont j'ai hérité? Ou puis-je les revisiter? Puis-je me déplacer par rapport à elle, ne serait-ce que d'un petit pas? L'idéal chrétien est-il de reproduire à l'identique ce que j'ai toujours cru, toujours entendu et compris des Écritures, de l'Église, de la foi? Ou vais-je enfin prendre le risque d'une relation personnelle et unique avec celui qui m'appelle? Cette parabole nous invite donc à un déplacement salutaire, libérateur, contre toutes les doctrines économiques du profit, du donnant-donnant. Si je suis fidèle, Dieu actionne le levier de la bénédiction. Si je suis infidèle, c'est le levier de la malédiction. Pam, pam, tout est simple. Ça, c'est la logique du profit, du donnant-donnant. La parabole nous présente au contraire un Dieu qui donne sans espérer en retour. Un Dieu qui nous affranchit par son absence et qui vient pour nous parler, jamais pour nous juger. Alors au lieu d'enterrer nos vies et nos talents dans ces ténèbres du dehors où les pleurs et les grincements de dents se font déjà entendre dans la vie de tant et de tant de personnes, eh bien laissons-nous sœurs et frères, laissons-nous établir femmes et hommes nouveaux, libérés par la grâce et remplis de cet appel d'en haut à vivre cette vie dans la surabondance et dans la joie. Amen.